Je voudrais aujourd'hui revenir sur le couple, peut-on dire, liberté et finalité. Nous avons vu que la doctrine sociale de l'Église suppose une société d'hommes libres. Encore n'est-il pas mauvais de réfléchir sur ce qu'est cette liberté, surtout alors que nous vivons dans une société totalitaire qui prétend nous dicter nos attitudes dans les moindres circonstances, avec une préférence pour les domaines accessoires, voire saugrenus. On interdit la vente de cigarettes en chocolat, et dans le même temps on demande que des préservatifs soient disponibles gratuitement à tous dès l'âge de 13 ou 14 ans. En quoi consiste exactement la liberté des hommes ? L'homme fait même ce qui lui est indispensable d'une manière volontaire et non automatique. Pour ne donner qu'un seul exemple, alors qu'un animal assoiffé ou affamé se jettera sur la nourriture ou la boisson qu'il apercevra, un homme qui a résolu de jeûner, qu'il s'agisse du carême, du ramadan ou de toute autre pratique, saura s'en abstenir. Cette abstention est un acte libre, commandé par sa volonté et non par son instinct. Cette liberté est la grandeur de l'homme, elle lui permet d'aimer en vérité, c'est-à-dire de choisir un but, un idéal, une personne, sans y être poussé par son seul instinct. Cela dit, on ne peut cacher que cette liberté est loin d'être absolue. Elle connaît d'abord des limites que l'on pourrait qualifier de physiques. Nul ne m'interdit d'aller sur la Lune ou de me promener au pôle Nord ou au pôle Sud, mais je n'en ai pas la possibilité physique. Nul ne m'interdit d'exécuter les pages les plus brillantes des virtuoses du piano ou du violon, ni de parler 14 ou 15 langues étrangères. Mais il me faudra des études longues et souvent ingrates pour y parvenir. Il y a aussi, nul ne peut le contredire, les suites, j'allais dire les séquelles de l'éducation que nous avons reçue, des événements extérieurs. Celui qui a été élevé dans d'austères salons du nord de l'Europe ne réagira pas comme l'enfant du bled habitué à galoper derrière des chèvres ou des chameaux. Toutefois, si le conditionnement limite la liberté, il ne l'annule pas pour autant, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles. Prenons l'exemple au point de vue conditionnement, prenons l'exemple de la conduite de voiture en montagne. Tout va bien lorsque soudain des flocons de neige apparaissent. Rien de bien grave au début. La neige devient plus abondante. Certains ralentissent, d'autres non. Cela dépend de leur habileté, de la performance de leur voiture. Si la tempête de neige se déchaîne, tout le monde va ralentir. Certains vont même s'arrêter. Soudain, c'est l'avalanche. On ne peut plus aller plus loin. On se trouve alors dans une situation limite. La neige est le symbole des conditionnements psychologiques et matériels qui nous encadrent. Comme la neige, ils peuvent nous ralentir, sans pour autant nous empêcher de maintenir notre cap, sauf si nous nous trouvons dans une situation limite, il faut avoir recours à la médecine. Mais ce sont des cas exceptionnels. En définitive, il y a toujours quelques libertés dans toute décision humaine. C'est là où réside la grandeur de la vie d'un homme, et la vie d'un homme comporte un petit nombre de choix pleinement libres, comme celui d'une vocation ou celui d'une fiancée. Les actes humains sont donc accomplis en vue de buts définis par l'intelligence humaine et non par leur simple nature. C'est là qu'interviennent les options fondamentales de la vie en société. Dans une option socialiste, il appartient à l'État de décider en lieu et place de chaque individu ce que chacun doit faire. Nous avons cité les préservatifs et les cigarettes en chocolat, mais la vie de tous les jours est encadrée de règlements souvent discutables. Pour chaque homme qui travaille, il y a 4 ou 5 contrôleurs pour le surveiller. Cela devient parfois irrespirable. Les critères de ce type de société sont essentiellement statistiques. La radio a annoncé dernièrement qu'il y avait eu une 12 de morts supplémentaires sur la route en juillet par rapport au mois de juillet de l'année dernière. On a pensé immédiatement à la 20 de victimes du car polonais qui s'est écrasé en bas d'une côte, mais les autorités ont immédiatement réagi et résolu de renforcer la répression des excès de vitesse des voitures particulières sur les autoroutes. Comprenne qui pourra. Dans une option libérale, la liberté n'a aucune limite. C'est le renard libre dans le poulailler libre, chacun étant libre de gruger son prochain du moment qu'il respecte des règlements tout aussi arbitraires que ceux des socialistes, puisque ne faisant aucune référence aux fins dernières de l'homme. Les anglo-saxons sont passés maîtres dans ce sport. Au cours d'une mission commerciale aux États-Unis, à laquelle je participais, le conseiller de l'ambassade de France a insisté sur le fait que, là-bas, aux États-Unis, la bonne foi n'existe pas, et que les contrats étaient habituellement rédigés sans ponctuation. Il appartient aux avocats de décider de l'interprétation. On comprend l'importance des cabinets d'avocats outre-Atlantique. La doctrine sociale de l'Église repose évidemment sur de tout autre base. Elle professe que la nature de l'homme est celle d'un être créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Chaque homme est unique en son genre, avec ses dons particuliers, une vocation universelle quant au but de l'union avec Dieu, mais particulière quant aux moyens. Prenons des exemples chez les saints. Saint Louis fut un roi, saint Thomas d'Aquin un savant, saint Gérard Magellan un valet de chambre et saint Roch un clochard. Tous les quatre sont proposés à notre dévotion comme ayant été des modèles de fidélité à l'appel de Dieu les concernant. Gageons toutefois que saint Louis aurait été un valet de chambre médiocre, saint Thomas un clochard quelconque, saint Gérard un piètre roi et saint Roch un savant lamentable. Il y a de tout parmi les saints, sauf des nouilles. Mais il faut que chacun le fasse à sa place. La doctrine sociale de l'Église prône, comme fidèle au bien commun, une société qui permet à chacun de réaliser sa vocation particulière au service de tous. Nous sommes loin des utopies, entre autres de l'utopie calviniste, qui voit dans la réussite matérielle une marque de la bénédiction divine, ou dans l'utopie républicaine qui cherche, entre autres, une uniformisation de tous les citoyens. Solzhenitsyn a fait dernièrement remarquer que la liberté et l'égalité étaient deux valeurs incompatibles. Si l'on donne à trois hommes une somme importante, on constatera au bout de quelque temps que le premier a augmenté son capital en faisant de fructueux placements, que le second a tout enfoui dans un bas de laine et que le troisième a tout perdu au casino. L'égalité ne peut être maintenue qu'au prix de lois strictes et confiscatoires, par exemple, payer de la même manière celui qui travaille bien, celui qui travaille mal et celui qui ne travaille pas du tout. Prétendre assurer conjointement liberté et égalité est un mensonge ravageur dont nous pouvons constater les dégâts tous les jours. La doctrine sociale insiste sur la finalité de notre vie terrestre. Notre monde a ruiné toute finalité et du coup sombre dans un relativisme maintes fois condamné par Benoît XVI. Ce relativisme qui laisserait à chacun le choix de ses options, comme s'il nous appartenait d'avoir des dons d'athlète, d'artiste ou de savant. Mozart aurait-il été un bon joueur de rugby ? C'est à chacun de faire fructifier ses dons pour le profit de tous, sans chercher à glaner dans le champ des autres. Le principal péché de notre société semble bien d'avoir perdu le sens de finalité. Qui dit finalité dit devoir, en particulier devoir envers les autres hommes. La société moderne parle sans cesse de droit, droit à la santé, à voyager, à la sécurité, etc. Chose curieuse, on ne parle jamais de devoir. Or, il n'y a pas de droit sans devoir. Si j'ai droit à la santé, c'est que d'autres ont le devoir de me soigner. Si j'ai droit d'aller aux Seychelles, c'est que d'autres ont le devoir de m'y transporter. Si j'ai droit d'aller au restaurant, c'est que d'autres ont le devoir de faire la cuisine pour moi et de me servir. Chaque groupe humain a des devoirs envers les autres hommes. C'est cette solidarité qui est l'ossature même de l'organisation d'une société saine. Les lois sont évidemment nécessaires. Même les ordres monastiques ont des dispositions qui mettent ses membres à l'abri de l'arbitraire de leurs supérieurs. Mais elles doivent permettre à chaque individu, à chaque groupe, de se développer selon sa propre vocation, sans être évidemment bridé par un autre, en particulier par une autorité supérieure. C'est là le principe de subsidiarité que nous aurons l'occasion d'approfondir. Je terminerai par deux phrases de Léon XIII qui ne sont pas d'aujourd'hui. L'Église, disait-il, en réaffirmant constamment la dignité transcendante de la personne, adopte comme règle d'action le respect de la liberté. Mais la liberté n'est pleinement mise en valeur que par l'accueil de la vérité. En un monde sans vérité, la liberté perd sa consistance et l'homme est soumis à la violence des passions et des conditionnements apparents ou occultes. Il ajoutait, la condition de la liberté humaine étant telle, il lui fallait une protection, il lui fallait des aides et des secours, capables de diriger tous ses mouvements vers le bien et de les détourner du mal. Cette ordonnance de la raison, voilà ce qu'on appelle la loi. Mais la prochaine fois, nous essaierons un petit peu d'approfondir tout cela. Je souhaite à tous une bonne rentrée.